moi j'ai enlevé du mouchma au cachet oriental. J'ai réduit totalement ce qui
est. Moi j'ai essayé de combattre au cachet oral. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, effectivement trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, toute l'équipe de Paroles aux Auditeurs est ravie de vous retrouver en ces débuts de semaine, même si nous l'espérons, vous apportera beaucoup de joie et de bonheur. Nous sommes le lundi 19 octobre 2009, vendredi dernier, l'Assemblée nationale a jugé recevable le projet du budget 2010. Ce texte a été envoyé à la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Et lors du débat qui a précédé le vote ayant jugé ce projet de budget recevable, les députés nationaux ont décelé plusieurs faiblesses dans ce projet de budget 2010. Pour les dépenses, par exemple, ils déplorent l'insuffisance des fonds alloués aux provinces ainsi qu'à l'investissement tel que l'agriculture, la recherche scientifique et l'éducation. Alors, pourquoi les différents budgets votés en RDC ne semblent pas avoir d'impact sur le vécu quotidien des Congolais et que faut-il faire pour changer cette situation? Telles sont les deux questions de notre débat du jour. Questions auxquelles nous vous invitons d'ailleurs à réagir à travers nos contacts habituels que nous vous donnerons tout de suite après. Nous en parlons avec un délégué de la primature. Il s'agit de M. Dédé Moulota Kachamankoy. Il est conseiller principal du Premier ministre, chargé des banques et monnaies. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui venez tout juste de vous joindre à nous.
Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Monsieur Dédé Moulota Kachamankoy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comme je le disais tantôt, vous êtes conseiller principal du Premier ministre chargé des banques et monnaies. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de budget 2010 qui a été jugé recevable le vendredi dernier à l'Assemblée nationale et son impact sur le vécu quotidien des Congolais. Mais puisque c'est quand même l'actualité, samedi dernier, la motion de défiance contre le Premier ministre n'est pas passée. Quelle est votre réaction? C'est une réaction de joie?
Bon, vous dites plusieurs choses en même temps. Oui. Vous parlez du budget.
On parle d'abord de l'actualité.
Vous parlez après de la motion.
Oui.
Il n'y a pas de lien à établir à cet effet. Ce qu'il faut dire à propos du budget, du projet de budget pour l'exercice 2010, comme à l'accoutumée, c'est-à-dire que depuis l'accession de la majorité au pouvoir de manière démocratique, le gouvernement fait des bons assez importants pour ce qui est de l'effort de mobilisation des ressources internes, également les efforts pour améliorer la contribution au budget de l'État de partenaires au développement. Et pour ce faire, le budget 2010 prévoit plus ou moins 4 480 milliards de francs congolais, c'est la contre-valeur de plus ou moins 5 milliards 300 millions
oui.
de dollars américains,
mm-hmm.
Comparé à l'exercice passé, dont les budgets étaient de 2 932 milliards de francs congolais.
C'est-à-dire en dollars.
En dollars, à l'époque, c'était plus ou moins 5 milliards 400 millions de dollars. À l'époque. Comparé
c'était pas 3 milliards l'année passée?
Ne faisons pas encore une fois de confusion.
Ouais.
Les 3 milliards, c'était la contre-valeur de ressources internes, de ressources ouais. propres du budget de l'État qui était de 1597 milliards et comparé au taux budgétaire de 560 millions et 500 francs congolais les dollars, donc la contre-valeur en ressources propres est de 3 milliards 2. Donc je parlais du budget de manière globale,
oui.
et je répète pour dire que ces 4 milliards 480 milliards de francs congolais, ça compte valeur de 5 350 millions de dollars pour l'exercice. En termes nominal, on a fait un bond de plus ou moins 53,7% d'accroissement de ressources
par rapport au budget de l'année passée.
Par rapport au budget de l'année passée. Avec des objectifs assez précis.
Ouais.
Le premier, c'est à situer sur le plan économique. Le gouvernement poursuit l'objectif sur ce plan précisément de faire en sorte que l'on dégage suffisamment de ressources et que l'on puisse assainir le milieu financier du secteur public particulièrement, de manière à croître suffisamment leurs ressources, de manière également à croître la qualité des dépenses de l'État pour avec objectif final sur le plan social, celui d'améliorer l'offre publique, l'offre des services publics à la base, qui est un processus qui doit se faire avec le temps.
Ouais.
Et le gouvernement est engagé de manière dynamique et solide dans ce processus. Donc, il fait un premier effort de dégager suffisamment de ressources pour rencontrer tant soit peu les préoccupations de la population, mais également assurer le développement au niveau de la base pour ce qui est de notre pays.
Voilà, monsieur Dédé Modesta Kachamanko, je rappelle que vous êtes conseiller principal du Premier ministre chargé des banques et monnaies. C'est une émission d'échange, hein, de débat citoyen entre nous qui sommes ici au studio, vous particulièrement et les auditeurs. Il y en a déjà trois. On va vous redonner la parole, mais il y a déjà Adrien qui est en ligne depuis Kananga Occidental, Vincent qui est en ligne au bout du fil depuis Moba au sud-est de la République démocratique du Congo, au Katanga, et Arsène qui lui intervient depuis Kikwit. On va les prendre tout de suite après. Voilà, Adrien, bonjour.
Bonjour, M. Claude.
Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. On vous écoute.
Oui, M. Claude, ça me fait un peu rire lorsque j'entends les conseils du ministre affirmer des histoires un peu fausses, parce que nous demandons quand est-ce qu'il faut apprécier un budget. C'est lorsque ce budget-là donc laisse des traces, lorsqu'il y a visibilité vraiment de quelque chose. Or, moi, je suis toujours posé des questions. Comment aussi le Parlement peut aussi faire passer des histoires comme ça? Tenez bien. Depuis l'arrivée de ce régime en donc au pouvoir, vous vous rendez compte que tous les budgets ne sont pas vraiment exécutés, même pas 50%. Il y a soit 40%, 45%, et sur les effectifs quotidiens vraiment de la population, c'est vraiment rien. Et cette exécution-là profite tout simplement aux membres du gouvernement. Je vous assure, j'étais à Lubumbashi, et aujourd'hui, je suis à Kananga. Après demain, je serai vraiment à Ilebo. Je vous assure, c'est vraiment rien. Et la population s'est dit, il n'y a pas de différence entre les budgets votés à l'époque de Mobutu et cette époque. Or, c'est un gouvernement responsable, un gouvernement élu qui aura des comptes à rendre vis-à-vis de la population.
Voilà. Merci. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous pour changer cette situation?
Voilà. Maintenant, la solution, c'est quoi? Il faut que nos députés prennent maintenant leurs responsabilités en main, parce que nous nous rendons compte que les députés ne font rien. Ils ont un rôle vraiment de contrôler le gouvernement. Ils ont vraiment un rôle de faire vraiment le suivi sur ce que le gouvernement est en train de faire. Mais lorsqu'il y a trop de clientélisme, trop d'amitié, et ça ne va pas aller. La solution, il faut que le parlementaire fasse leur travail, parce que si le gouvernement actuel échoue, parce que c'est vrai, nous voyons déjà que certains chefs qui pointent à l'horizon.
Merci
et
beaucoup.
Les députés ne vont pas vraiment se laver les mains.
Merci beaucoup.
Ils ne vont pas nous dire que non, en tout cas, voilà, nous, on ne dirige pas, ce sont eux qui votent, des lois, ce sont eux qui ont vraiment la charge de diriger, de contrôler le gouvernement. Quoi.
Merci beaucoup, Adrien. Vous intervenez depuis au Kananga. Puisque vous parlez des députés qui ne font pas, d'après vous, leur travail, je rappelle que tous les intervenants au débat général sur ce projet de budget 2010 étaient unanimes sur les faiblesses que présente ce budget 2010. Pour les dépenses, les députés nationaux ont soulevé l'insuffisance des fonds alloués aux provinces ou encore à la rubrique des investissements comme l'agriculture et des fonds dérisoires également pour la recherche scientifique et l'éducation. Vincent, vous êtes à Moba au Katanga. Bonjour. Bonjour Vincent. Apparemment, Vincent n'est pas en ligne. Nous allons quitter le sud-est de la République démocratique du Congo pour l'est. Nous allons nous rendre à Kikwit, au Bandundu. Bonjour, Arsène. Bonjour, Arsène.
Oui, je vous écoute, je suis à l'écoute, toi.
Alors, vous, est-ce que vous intervenez à partir de Kikwit? Est-ce que vous avez un autre élément à ajouter par rapport à Adrien de Kananga qui, lui, pense que les différents budgets ne laissent pas du tout de traces dans les vécus quotidiens de la population? Ils ne sont exécutés qu'à hauteur de 50%. D'après lui, il n'y a pas de différence entre le budget lors de la période de Mobutu et les budgets qu'on a actuellement avec le gouvernement élu. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que lui ou peut-être un peu plus optimiste?
Ok, monsieur. Moi, en tout cas, je serai en tout cas un peu plus proche de mon compatriote de Kananga. Le budget, si on voit le chiffre,
oui,
on est en train de voter, on voit l'impact qu'il y a sur la population, monsieur, ça c'est du théâtre. Vraiment, nos députés doivent cesser. Ils doivent cesser ce théâtre, ils doivent cesser. Pour l'amour du patrie, pour l'amour du patrie.
Et qu'est-ce qui ne va pas à Kikwit? Qu'est-ce que vous ne ressentez pas à Kikwit sur l'impact du budget dans votre vécu quotidien? En quoi? Dans quel domaine?
En tout, mon frère.
C'est-à-dire?
Yeah,
il ne faut pas plus généraliser. Allez-y, citez quelques exemples.
Je dirais ceci, monsieur. Écoutez, hier, c'était 5 milliards de dollars.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est 5 milliards de dollars. Ça fait au total 10 milliards de dollars. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on peut réaliser avec 10 milliards de dollars?
Mais donnez des exemples sur ce que vous ne ressentez pas comme impact du budget. Il ne faut pas généraliser, monsieur. Donnez, s'il vous plaît, des exemples concrets.
Des exemples concrets?
Oui.
Je vais prendre un exemple tout à fait tout petit. Au moment où je vous parle, je suis juste à côté de la résidence présidentielle. Cette résidence, qui est officielle, la résidence du président de la République, n'a de la lumière que 2 heures chaque 3 jours, sauf 2 jours, je crois. Comment la résidence d'un président de la République peut manquer du courant? Exemple tout petit et tout simple. Vraiment, c'est regrettable. Mes chers députés, mes chers ministres, pour l'amour du patrie, faites quelque chose de palpable.
Et qu'est-ce que vous suggérez, vous, en tant que citoyen participant à un débat qui concerne le problème de tous les pays, qu'est-ce que vous proposez pour que le budget ait quand même un certain impact sur le vécu quotidien de la population? Dans quel domaine faut-il mettre l'accent?
Bon, dans presque tous les domaines sont urgents. Mais il faut commencer à démanteler le système de vol qui est instauré en système, on dirait que c'était vraiment étatique. Non, c'est du vol, pur et simple. 10 milliards de dollars, on n'a rien fait avec, et il faut d'abord commencer à démanteler le système. Le système doit être démantelé comment? La première chose, soyons honnêtes. La seconde chose, nous allons voir les élections qui nous arrivent. On ne sait pas de nous tripoter aux élections. Passons aux élections et nous changeons des hommes, nous changeons le système. Un point très, mon frère.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène, pour votre intervention depuis Kikwit. Nous allons réessayer, avant d'accorder la parole à notre invité, nous allons réessayer de nous rendre au sud-est du pays, à Moba, précisément au Katanga, pour savoir si maintenant Vincent est en ligne. Vincent n'est toujours pas en ligne. Nous quittons le sud-est du pays pour l'est. Nous allons nous rendre à Bukavu. Bukavu est en ligne avec vous, Espoir. Bonjour.
Oui, je suis en ligne, monsieur le journaliste.
Voilà. Est-ce que la problématique de l'émission d'aujourd'hui, c'est que pourquoi les différents budgets votés en République démocratique du Congo ne semblent pas avoir d'impact sur les vécus quotidiens des Congolais? Est-ce que c'est le budget qui doit déterminer, qui doit avoir un impact sur les vécus quotidiens des Congolais, ou y a-t-il aussi, d'après vous, d'autres éléments qui concourent à l'amélioration du vécu quotidien des Congolais au lieu de ne compter que sur le budget?
Oui, moi je crois qu'il y a d'autres éléments qui font à ce que le budget ne semble pas avoir de l'impact sur la vie sociale de nos populations.
Mmh.
Là d'abord, est dû à ces différentes leçons de science qui sont concernées à nos premiers ministres et gouverneurs de la province. Vous savez que la RDC connaît un problème. Quand il y a un gouvernement qui est mis à côté, ou la formation d'un gouvernement qui doit suivre l'autre là, c'est vraiment un problème, un sérieux problème, parce que ça prend beaucoup de temps à l'ère du Congo. Et quand ça prend beaucoup de temps, nous trouverons que le mantra du présent gouvernement va finir, on dira qu'on n'a pas eu le temps de terminer tous nos chantiers. C'est là un problème majeur pour nos populations.
Donc, merci beaucoup pour votre intervention depuis Bukavu, au sud de Kivu. Voilà, on va revenir au studio avec vous, monsieur. On va vous redonner la parole, monsieur Dédé Moulossa Kachamanko. Je rappelle que vous êtes conseiller principal du Premier ministre et chargé des banques et monnaies. Vous avez suivi les différentes interventions, notamment celle d'Adrien de Kananga Okasai Occidental, qui dit que tous les budgets qui sont votés ne sont exécutés qu'à hauteur de 50%. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les budgets de l'époque de Mobutu et ceux qu'on a aujourd'hui. Ça c'est d'après lui. Il y a aussi Arsène Dikikuit au Bandundu qui déplore le manque d'électricité. Pour lui, c'est, il pense que à travers le problème d'électricité, cela demande que le budget réellement n'a pas d'impact sur leur vie quotidienne. Et puis vous avez suivi l'intervention d'Espoir qui intervenait depuis Bukavu. Alors on vous laisse le temps de leur répondre.
Bon, je remercie d'abord les différents intervenants pour leurs observations et également leurs critiques qui traduisent assez très clairement leurs inquiétudes pour l'avenir de notre pays, dont également leur intérêt pour que la situation du pays soit très rapidement redressée. Mais je voulais leur dire que le gouvernement est sur ce chantier-là. Il est de manière assez décidée et poursuit différents objectifs, compte tenu des multiples défis qui se dressent devant la nation. Les défis de réhabiliter assez rapidement des infrastructures, les défis d'améliorer la desserte en eau, en électricité, les défis d'offrir aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, des conditions de sécurité nécessaires, des conditions de sécurité pour exercer, créer des entreprises et créer des emplois en République démocratique du Congo, des défis qui sont beaucoup plus important qu'on peut le penser. Lorsque justement nous parlons de desserte en eau et en électricité, il faut savoir que nous avons 87 barrages dans notre pays. Tous ces barrages
hydroélectriques
qui sont dans un état de vétusté pour ce qui est de leur matériel, pour manque d'entretien pendant de longues années. Nous avons 243 000 km de routes d'intérêt national, provincial et des secteurs agricoles qui sont demeurés pendant très longtemps dans un état d'abandon total quant à la réhabilitation et à l'entretien. Nous avons plusieurs défis que je pourrais, la liste serait longue à citer.
Mais comment allez-vous faire pour relever ces défis,
s'il vous plaît? Oui. Plusieurs défis qui exigent des montants importants en ce qui concerne le financement de ces différents projets.
Oui.
Et que la solution ne peut pas venir d'un seul coup de baguette magique. La solution peut venir d'abord par le fait que le Congo doit avoir suffisamment de moyens. D'abord, ces moyens internes. Comparé à l'époque à laquelle les différents intervenants font allusion ici, l'époque de la Deuxième République,
oui.
Les efforts sont énormes. C'est la première fois qu'au Congo, on a un budget en ressources internes, en ressources propres, supérieur à $1 milliard.
Mais la population n'est pas la même. Hein.
S'il vous plaît, ne faites pas ce genre de discours, parce que ce n'est pas de cette manière-là que nous réglons le problème. Jamais les chefs de l'État, jamais la majorité au pouvoir, jamais le chef du gouvernement, le Premier ministre Adolphe Mozito, n'avait pris l'engagement devant la nation de reconstruire le pays, de rétablir la sécurité, d'entamer, de terminer de poursuivre de refondation de l'État de notre pays, de créer des emplois, d'améliorer les conditions de vie des Congolais en un seul exercice budgétaire. Jamais on n'a pris un tel engagement. L'engagement que le chef de l'État a pris, c'est de dire qu'il s'engage dans un processus très long de réhabilitation des infrastructures.
Très long, c'est-à-dire très long.
Un processus qui prendra des années. Je vous dis que l'héritage colonial en matière de route est de 243 000 km². 243 000 km de route. Je vous dis que l'héritage est de 5 033 km de voies ferrées. Et ces voies ferrées ne permettent pas la jonction, la connexion des différents coins de la République démocratique du Congo.
Je vous dis que en matière d'aéroports, c'est 232 aéroports.
Mmh.
Laissés, ça c'est l'héritage colonial. Et ces aéroports n'ont pas été entretenus pendant très longtemps. Pour ne plus que ces infrastructures-là, pour les réhabiliter, les ports et autres, les voies de navigation, pour les réhabiliter, ça existe des montants colossaux.
Combien?
Plus que ça.
Combien, par exemple? Prenez pour construire ce pays?
Oui. Prenez, par exemple, pour ce qui est de la route. Prenez que 1 km de route à asphalter vous coûte 1 200 000 dollars. 1 km de route.
Mmh.
Et lorsque vous en avez 243, il vous faut plus ou moins 310 milliards de dollars américains.
Mais la population est quand
vous
même impatiente. Il faut la comprendre, peut-être à cause des difficultés auxquelles elle fait face.
Moi, je comprends l'impatience.
Oui,
accordez-moi
oui,
plus.
Vous aurez le temps, mais parce qu'il y a aussi les auditeurs qui doivent. Soyez synthétique, s'il vous plaît. Il y a aussi d'autres auditeurs qui doivent intervenir.
Je le suis pour dire qu'il nous faut du temps. Et pour. Il nous faut du temps, il nous faut beaucoup de patience.
Il nous faut 10 ans.
Non, je dis il nous faut du temps, je ne voudrais pas dire 10 ans, 5 ans. Pour reconstruire le pays, le Congo fait exactement la superficie de toute l'Europe de 27. Toute l'Europe de 27. Donc, pour reconstruire ce pays, il nous faut beaucoup de temps. 2 345 410 km² de superficie, ce n'est pas une mince affaire pour établir.
Mais c'est impossible.
Et ce n'est pas seulement ce défi-là. Mais le défi, c'est aussi de faire une armée. De reconstituer une armée. Et le président Laurent Désiré Kabila a avancé en ce qui concerne l'armée qu'il nous faut au moins un effectif de 600 000 hommes.
Voilà, on va.
Pour assurer la sécurité, s'il vous plaît. La police.
On va vous redonner la parole.
Les rémunérations, les équipements,
vous
la formation.
Vous êtes encore dans
cette
émission.
Je termine par la formation d'une armée, la formation d'une police, la formation des services de sécurité pour que nous puissions assurer une meilleure sécurité, une meilleure protection de nos frontières, c'est juste des choses. Donc on ne peut pas dire que la population ne trouve pas son compte lorsque le gouvernement est déjà entré d'entamer et dans la mise en œuvre du programme pour la reconstruction.
Mais justement c'est cette population qui est sur les terrains, qui raconte son vécu au quotidien.
C'est simplement parce que lorsqu'on dit, on fait croire à la population.
Ouais.
Que le pays qui a été détruit pendant plusieurs décennies, qu'on peut le reconstruire, qu'on peut redresser la situation en moins de 3 jours. Jésus-Christ de Nazareth avait même refusé de faire des miracles qu'on puisse détruire Jérusalem et qu'il puisse se reconstruire en un tour de baguette.
Merci beaucoup. Nous avons encore une centaine de minutes. Vous aurez le temps de parler, le temps de prendre aussi à Vincent qui... J'espère que Vincent est maintenant en ligne. Joe de Kinshasa et Benjamin Dissiro.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Si vous venez de prendre en cours cette émission Parole aux auditeurs, cette émission de débat citoyen, d'échange entre les Congolais qui interviennent de plusieurs endroits du monde sur les problèmes qui concernent tous les Congolais, toutes les Congolaises, je vous en rappelle le thème pour pouvoir vous aussi participer à cet échange dans ce débat citoyen. Donc, vendredi dernier, l'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de budget 2010. Ce projet de budget est évalué à 5,3 milliards de dollars américains. Donc, ce texte le projet de budget a été envoyé à la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Et lors du débat qui a précédé le vote, ayant jugé ce projet de budget recevable, les députés nationaux ont décelé plusieurs faiblesses dans ce projet de budget 2010, où les dépenses, par exemple, ils déplorent l'insuffisance des fonds alloués aux provinces, ainsi que qu'à l'investissement, tels que l'agriculture, la recherche scientifique et l'éducation. Alors, nous nous posons quelques questions aujourd'hui. Pourquoi les différents budgets votés en RDC ne semblent pas avoir d'impact sur le vécu quotidien des Congolais, comme nous le confirment d'ailleurs beaucoup d'auditeurs? Et que faut-il faire pour changer cette situation? Donc, ce sont dans nos deux questions. Si vous voulez intervenir, participer à ce débat, vous avez trois possibilités. La première, c'est de nous appeler au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Et si vous êtes à l'étranger, ajoutez le 00-243 au 81-99-77-800. Appelez, nous allons vous rappeler tout de suite après La deuxième possibilité, c'est de nous envoyer juste votre point de vue ou vos contacts téléphoniques par SMS au 0998 999 222. Si vous nous envoyez vos contacts, nous allons vous rappeler. La troisième possibilité, si vous nous suivez en live à travers le monde sur Internet, voici l'adresse de notre courrier électronique pa@radiookapi.net. PA, c'est en un seul mot, @radiookapi.net. N'oubliez pas, Radio Okapi, c'est en un seul mot, avec deux lettres O collées au milieu pour ne pas commettre d'erreur et que nous puissions recevoir votre mail. Vincent, vous êtes à Moba au Katanga, bonjour.
Bonjour, Claude.
Alors, on vous écoute. Quelle est votre contribution sur cette problématique du budget?
Oui, merci beaucoup, Claude. C'est avec intérêt que je suis l'évolution des échanges. Mais ce que moi je dois dire, c'est que l'ensemble du peuple congolais auquel je fais partie n'a pas besoin de consommer les illusions qu'on est en train de vendre aux enchères par les représentants du ministre. Le peuple n'a pas besoin de la nomenclature des défis, tel qu'on est en train de le relater. Si le Premier ministre a accepté les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui, le Premier ministre Adolphe Mounouzi, que j'aime bien, s'il a accepté ses responsabilités, je crois qu'il devait être conséquent. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ce que le peuple attend, ce sont des actions concrètes. On vote le budget aujourd'hui, le budget 2010, mais je crois que ce qu'on devrait faire, c'est d'abord un déballage total du budget 2009.
C'est ce qui a été fait, il me semble.
Oui, justement. Et vous comprenez que la grande majorité de notre peuple aujourd'hui est en train de se plaindre et c'est la même chanson. C'est pour dire que le budget 2009 n'a pas vraiment satisfait le peuple congolais par rapport à sa réalisation. Et aujourd'hui, avec le budget 2010, comme si on dit que c'est pour la première fois qu'on a réalisé un surplus de 1 milliard. Sur son propre fond, ce n'est pas ça non plus le problème. Donc, moi, je pense que il y a aussi une certaine complicité avec nos députés. Vous savez, les députés, nous avons donné le mandat d'aller à l'hémicycle pour pouvoir parler à notre nom. Autrefois, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu à votre émission d'un autre intercongolais, il y a un député qui était invité, qui vous dit dans ce bloc que le gouvernement a l'obligation de rendre compte de l'évolution de l'exécutif, de l'exécution du député.
Allez-y rapidement. Allez-y rapidement parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs en ligne.
D'accord.
Concluez, s'il vous plaît.
Alors que nous prenons place, 6 mois, une année, on ne donne pas cette évolution. Et les députés sont là, dans les bras, en train de regarder. Et par après, ils sont.
Vincent, on vous reçoit plus très bientôt, vous pouvez vous déplacer, mais je voudrais vous dire simplement que lors du débat sur ce projet de budget, les députés nationaux ont relevé quand même certaines faiblesses dans ce budget, dans ce projet de budget, et il a été jugé recevable et versé à la commission économico-financière pour des modifications, pour un examen approfondi. Merci beaucoup pour votre intervention depuis Moba au Katanga. Joe, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Joe, bonjour. Apparemment, Joe n'est pas en ligne. Benjamin, vous êtes à Isiro. J'espère que vous êtes en ligne. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, c'est Ali.
Vous êtes en ligne d'Isiro, dans la province orientale. Vous avez suivi les différentes interventions de nos auditeurs et même du conseiller principal du Premier ministre chargé des banques et monnaies. Quelle est votre contribution sur la question d'aujourd'hui? Pourquoi les différents budgets ne semblent pas avoir beaucoup d'impact sur le vécu quotidien de la population? Est-ce qu'on doit compter que sur le budget ou y a-t-il d'autres éléments qui peuvent modifier le vécu quotidien des Congolais?
Oui, merci beaucoup. Premièrement, je m'adhère à ce que les autres venaient de dire. Ce que nous regrettons en amèrement du part de notre gouvernement est que Non, notre gouvernement vote le budget sur, surtout le budget imaginaire, et sur, basé sur les crédits occidentaux, basé sur n'importe quoi, parce que si jamais leur budget répondait aux besoins premiers, primordiaux de la population congolaise, ce budget aurait à avoir de fait.
Si mes souvenirs sont bons, s'il vous plaît, Benjamin, si mes souvenirs sont bons, si mes chiffres sont bons, à peu près 42% de recettes doivent venir de l'extérieur du pays. Peut-être, monsieur, le conseiller va devoir nous le confirmer. Allez-y, Benjamin.
Oui, je disais que je ne pouvais que prendre un seul point sur l'éducation. Je vis que le budget congolais ne veut pas promouvoir l'éducation dans le pays de l'Ouest du Congo, parce que le budget qu'il vote chaque année, c'est le secteur éducation qui souffre. Un des secteurs les plus souffrants du Congo, c'est l'éducation. Alors, nous disons que le budget qu'il vote, c'est un budget imaginaire. Est-ce que, je voudrais poser la question, sur quelle base qu'il signe, qu'il fait le budget, parce que si c'est une base de la population, je pense que ce budget pouvait avoir des répercussions très importantes sur la population. Et présentement, ici, par exemple, où je suis, je vois que l'enseignement, en général, ne va pas.
Benjamin, s'il vous plaît, on va conclure avec vous, hein, puisqu'il y a déjà Fabien de Kinshasa qui est en ligne. Est-ce que vous ne trouvez pas que la population attend trop du budget national? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est payé par la fonction publique. Il y a aussi des gens qui travaillent pour leur propre compte, qui ont des affaires. Alors quand on entend souvent beaucoup de Congolais parler, c'est comme si tout le monde sera payé grâce à ce budget du national. Est-ce que c'est le cas? C'est aussi le cas ici.
C'est qu'il sait que l'école et l'éducation, c'est un des secteurs étatiques et qui devrait être régi par le gouvernement pour les subsides, pour les paiements, ainsi de suite. Mais si c'est des écoles même qui sont en charge de l'État, mais ne respirent pas bien, c'est une des causes européennes, ou c'est un des éléments les plus importants à signer que le gouvernement ou le budget gouvernemental n'a pas d'effet palpable dans le secteur de l'éducation.
Merci beaucoup Benjamin. Vous intervenez depuis Siro, c'est dans la province orientale.
Parole aux auditeurs.
Fabien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur.
Je vous repose la même question que celle à laquelle j'ai posé, à celle que j'ai posée, excusez-moi, Benjamin Dissiro. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand on entend les débats ici en République démocratique du Congo parmi les Congolais, on a l'impression que tout le monde attend d'être payé par ce budget. Même les gens qui font leurs affaires, qui sont dans le privé, apparemment, est-ce que vous avez cette impression à Kinshasa? Parce que tout le monde n'est pas dans la fonction publique pour attendre une certaine amélioration de leurs conditions salariales, l'augmentation des salaires à travers le budget.
Ah oui, merci beaucoup de la question. Moi, je pense que les attentes de la population congolaise dans l'ensemble sont tout à fait légitimes, parce qu'ils attendent de l'État congolais de nourrir toute la population, parce que l'État est considéré comme la meilleure nourricière. Mais au-delà de toutes ces considérations qui sont par ailleurs légitimes, je crois qu'il y a un élément très fondamental qu'il faut retenir, c'est que l'État ne peut donner que ce qu'il a aujourd'hui.
Mmh.
Hein? Nous pouvons faire que la politique de nos moyens. Le Premier ministre l'a bien spécifié lors de son discours qu'il a tenu au Parlement, que nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, chercher à avoir des ambitions démesurées qui ne conviennent pas à la hauteur au niveau de nos recettes. Figurez-vous que notre budget aujourd'hui est essentiellement constitué des recettes qui sont générées par les services générateurs de recettes, que sont la DGRA, l'OFIDA, la DGI, ainsi de suite. Et une grande partie de ces revenus proviennent de l'appui extérieur. Encore que quand ces gens promettent de pouvoir financer notre budget, ils ne réalisent pas à 100% leurs promesses. Vous avez tout à l'heure constaté que l'année passée, quand le fournisseur a fait le bilan de l'exécution passée du budget de l'année en cours, il a dit que l'apport extérieur attendu n'était pas escompté. Donc, quand vous dites que le gouvernement fait face à pas des contraintes, indépendamment de sa bonne volonté, qui ne permet pas à ce qu'on puisse réaliser à 100% tout ce qu'on a projeté. Parce qu'un budget d'investissement, par exemple, on peut penser qu'on investit dans le domaine de l'agriculture, qui est un domaine incitatif au développement,
oui.
Ou dans le domaine de l'industrialisation. Il faut disposer de beaucoup de moyens. Le conseil principal du premier tout à l'heure l'a dit si bien, nous avons un pays suffisamment gigantesque, mais avec le somme que nous avons, nous ne sommes pas capables de réaliser le 10% des faits que nous avons prévu. Encore qu'il y a eu énormément de contraintes par rapport à l'année passée, en fait l'année en cours, des contraintes liées à la guerre de l'Est.
Monsieur Fabien, s'il vous plaît.
Les femmes qui ont été mobilisées par le gouvernement ont été obligées de faire face ou de répondre au défi de la sécurité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'investissement, donc il n'y a pas de production, donc il n'y a pas de distribution de revenus au niveau national.
Monsieur Fabien,
c'est difficile d'envisager au jour d'aujourd'hui répondre à toutes les attentes, légitimes soient-elles, alors que les moyens que nous avons ne sont pas suffisamment disponibles.
Voilà. Monsieur Fabien, ce que vous avez, je ne sais pas, c'est aussi un débat. Est-ce que la répartition, les affectations du budget sont bien faites? Est-ce que les priorités sont respectées? On accorde combien à l'éducation, à l'agriculture, peut-être aux infrastructures? Est-ce que la répartition est bonne? Est-ce qu'on n'accorde pas peut-être trop d'importance aux dépenses de souveraineté, à la paye peut-être de certaines personnalités que sur des points importants comme les routes, les écoles, la santé et d'autres domaines. Parce que la répartition, bon,
avant de répondre à votre question, M. Zanini, je voudrais d'abord revenir en arrière. Hein.
Oui.
Je vais soulever une question parce qu'il est passé plus ou moins inaperçu.
Oui.
Vous souviendrez qu'il y a quelque temps, lors de l'élaboration du budget de l'année passée, il y avait une commission qui était constituée pour pouvoir évaluer l'apport qu'aurait dû faire les revenus financiers dans la mobilisation des recettes pour le budget de l'année en cours, donc 2009. Un groupe de députés ont été accusés, à tort ou à raison, je ne vais pas faire leur procès ici, ont été accusés d'avoir contribué à minorer sensiblement les recettes que devaient générer par rapport à leur assignation les revenus financiers. Mais vous savez la conséquence que cela avait généré, c'est quoi? C'est que les députés qui sont eux, le Parlement, donc qui constitue l'autorité budgétaire, a contribué à ne pas donner au gouvernement le moyen de sa politique. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui les mêmes députés puissent prétendre demander des justifications des comptes au gouvernement alors qu'ils ont contribué eux-mêmes à faire échapper l'argent pour le compte du trésor?
C'est un dossier qui est entre les mains de la justice. Merci beaucoup, M. Fabien, pour votre intervention. Merci beaucoup. Il y a aussi d'autres auditeurs d'Adi de Kikwit et de Saint-Denis. Nous avons aussi notre invité, M. Dédé Moulossa Kachamankoy, qui est conseiller principal du Premier ministre et chargé des banques et monnaies, qui a aussi des réponses à donner par rapport aux préoccupations des auditeurs. On vous écoute, M. Dédé Moulossa.
Merci beaucoup. Encore une fois, merci à tous les intervenants. Je dis que l'intérêt que nous manifestons tous pour que le Congo soit doté d'un budget à la hauteur de ses ressources, à la hauteur de l'immensité de son territoire, cet intérêt-là ne doit pas nous faire oublier l'état dans lequel le pays a été avant 2007. On ne doit pas oublier que pendant très longtemps, nous avons très mal géré notre propre pays. Nous n'avons pas investi, nous n'avons même pas investi, ne fût-ce que pour assurer l'entretien du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, le patrimoine des infrastructures que nous avons acquis de la colonisation. Nous n'avons même pas pensé à le faire.
Mais aujourd'hui, la gestion est meilleure.
S'il vous plaît. On n'a même pas eu à le faire. Et que l'effort qui est fait depuis 2007 est un effort soutenu. La preuve, vous pouvez le voir, vous pouvez la percevoir dans la mobilisation qui est faite des ressources propres de l'État au niveau du budget. Tout à l'heure, les gens ont dit que c'était de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction que sur 200, pour 200, sur 400 000 enseignants, 450 000 enseignants du secteur de l'EPSP aujourd'hui, il y avait 222 000 seulement qui étaient mécanisés, payés par le gouvernement de la République avant 2007. Et qu'en 2006, en 2007, on a pu mécaniser 22 000 supplémentaires pour monter les chiffres des enseignants payés à 248 000. Et qu'en 2009, aujourd'hui où nous parlons, on vient de mécaniser de nouveaux effectifs de 19 000. Ce qui met le niveau, qui fait monter les effectifs payés, aujourd'hui mécanisés, pris en charge, avec une enveloppe de rémunération de ces enseignants-là, qui représente plus du tiers de l'enveloppe de l'ensemble de 1 million 33 000 agents et fonctionnaires de l'État civil et militaire.
Aujourd'hui, donc, la paie des militaires et des fonctionnaires de l'État représente combien de pourcents du budget aujourd'hui? C'est 1 million à peu près de fonctionnaires qu'on a en République.
Ça représente plus ou moins l'écart du budget.
L'écart du budget.
Du budget en ressources propres. Donc 25%. L'élimination de l'ensemble du secteur de la fonction publique. Plus ou moins l'écart. Et dans cet écart-là, il faut prendre le tiers qui est affecté uniquement aux rémunérations des enseignants. Les exemples sont les gens. Ce n'est pas seulement sur ce point-là. Mais le chemin est long. Si nous avons aujourd'hui 266 000 enseignants qui sont payés, il y a plus ou moins 140 000 ou 200 000 qui ne sont pas encore mécanisés. Mais le chemin a été fait. Il y a plus ou moins 40 000 qui ont été pris en charge, supplémentaires s'il vous plaît, depuis 2006 à aujourd'hui. Ça c'est pour ce qui est de l'enseignement. Mmh. Et pour ce qui est, toujours en restant dans le secteur, il y a eu des écoles qui ont été réhabilitées. Avec l'argent, non seulement du pouvoir central, mais aussi l'argent des provinces. L'argent qui a été transféré dans les provinces. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les gouvernements provinciaux reçoivent, les gouverneurs de province reçoivent en moyenne 1 million de dollars de contre-valeur, 800 millions de francs congolais en moyenne par mois, par province.
J'ai dit que c'est pas beaucoup, hein, parce que l'immensité des problèmes, on entend les Congolais,
ce n'est pas beaucoup.
Ils ne sentent pas vraiment l'impact de cet argent.
Mais, mon frère, mais inversons le raisonnement.
Mmh.
Mais pourquoi est-ce que le Congo a un budget aussi faible? Ce n'est pas le fait du gouvernement. C'est le fait qu'on a détruit les tissus économiques dans lesquels l'État pouvait puiser ses ressources. Le PIB, le niveau général des ressources de richesse du pays, c'est 12 milliards.
Mmh.
C'est plus ou moins le même niveau de production des richesses que le Congo-Brazzaville en face.
Voilà.
Et moins que le Gabon.
Oui, donc, justement, vous êtes là aussi.
Autant de défis qui font que l'on ne fasse pas l'amalgame, qu'on ne fasse pas croire aux gens.
Mmh.
Le gouvernement ne vend pas d'illusions. Ceux qui vendent d'illusions, ce sont ceux qui disent que le gouvernement ne fait rien, alors qu'ils sont incapables de dénombrer les différents défis qui s'imposent à la nation.
Mais si vous pouvez vous parler comme ça, vous semblez être pessimiste aussi, hein, pour certains auditeurs. Or, je sais que les gouvernants.
Je ne suis pas pessimiste.
Si vous acceptez d'être là, comme l'a dit un auditeur, si le Premier ministre acceptait d'être là, il faudrait qu'il soit conséquent.
Il
cherche des solutions justement aux problèmes des Congolais.
Il est conséquent, il recherche les ressources pour répondre aux préoccupations de la population.
Voilà.
Et s'il vous plaît, monsieur, je voudrais terminer par là.
Oui.
Pour dire qu'un effort est fait. Prenez le cas des infrastructures.
Rapidement,
le gouvernement a signé un contrat de 6 milliards de dollars sur plus ou moins 6 ans avec le partenaire chinois pour uniquement financer le développement et la modernisation. On n'a jamais utilisé ce terme-là. En ce qui concerne les infrastructures.
Mmh.
J'ai dit réhabilitation, construction et modernisation des infrastructures.
Ça se termine quand, c'est pour réhabilitation.
S'il vous plaît, monsieur, Jésus-Christ n'a pas pu faire le miracle de reconstruire la ville de Jérusalem en 3 jours.
Parce qu'il y a une certaine impatience aussi de la population. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population.
A fortiori, non. Les gens qui disent que le gouvernement ne fait rien sont des gens qui vendent l'illusion au peuple
congolais. Ça, je ne l'ai pas dit. Hein.
Voilà.
Ce sont des auditeurs qui...
Je réponds aux préoccupations. Pour apaiser mes compatriotes,
leur
dire qu'un effort est fait.
Voilà.
Le parcours sera long, le chemin du développement sera long, mais pour y arriver, il fallait commencer.
Voilà,
avec un budget d'1,560 milliard en 2007, avec un budget de 2,2 milliards de dollars de contre-valeur en 2008, avec un budget de 3,2 milliards, j'ai pas de ressources propres en 2009, avec un budget de plus ou moins 3,5 milliards en 2010, il faut le faire.
Merci.
Mais encore une fois, c'est insuffisant par rapport à nos préoccupations, par rapport à l'attente.
On vous a compris. On va aussi écouter les
groupes. Mais la volonté du gouvernement est bien affichée.
Voilà.
Est bien affichée. Il faudrait que nous regardions dans cette direction-là.
On va aussi écouter ce que vous dirigez, les populations, parce que vous devez aussi les écouter. S'il vous plaît, monsieur Dédé, on va encore vous accorder la parole, mais il faut aussi écouter vos administrés, parce qu'ils ont aussi des choses à vous dire. Bonjour, Dadi.
Bonjour, monsieur Tosé Dadimbinzi.
Oui, vous êtes Akikwit au Bandundu. Laissez-moi un peu lire quelques mails hein, avant de vous accorder la parole. Il y a notamment Farajan Tahira Espoir de Bukavu. Je crois qu'il est déjà passé celui-là. Il y a Djama Kipoya de Kinshasa qui dit, en tout cas, moi, je me demande si notre invité est un... si là, ça c'est un peu personnel hein. Il demande si l'invité a déjà demandé à ses proches parents vivant ici sur des questions sur leur vécu au quotidien. Ben peut-être il aura peut-être à répondre parce qu'il dit au moins il aura un vrai écho de la réalité du pays. Pour Jamar de Kipoya, vous n'avez pas vraiment la réalité de ce qui se passe dans le pays apparemment monsieur Dédé, vous aurez peut-être à lui répondre. Il y a aussi d'autres auditeurs, Faraja, oui, nous l'avons déjà eu, il y a aussi Jama, oui. En attendant, il y a aussi l'ingénieur Jérémy Kangodja de Mbujimaï qui dit, j'estime que ces budgets sont calqués sur des modèles qui sortent de... Je comprends pas très bien sa question. On va écouter Dadi, ensuite Delphine de Kinshasa et Maurice de Kananga. Dadi, on vous écoute.
Bon, s'agissant sur ce budget, je voulais dire d'abord, les budgets doivent être assainis. L'argent sort pourquoi? Ça va où? Ceux qui utilisent cet argent, est-ce que cet argent est bien utilisé? Si ce n'est pas bien utilisé, on établit les responsabilités, on sanctionne. Mais dans notre pays, il n'y a pas la culture de la sanction. On ne voit que des slogans. Hier, c'était « Les portes des prisons seront ouvertes aujourd'hui. » C'est tolérance zéro. Peut-être demain, ça sera les mains propres. Donc, un pays des slogans.
Et qu'est-ce que vous suggérez que l'argent soit bien utilisé, que s'il y a des gens qui sont pris en flagrant délit, qu'ils soient sanctionnés au lieu des slogans. Merci beaucoup, Dadi, pour votre intervention. Depuis Kikwit, nous quittons Kikwit pour revenir ici à Kinshasa. C'est avec vous, Delphine. Delphine, bonjour.
Bonjour,
Delphine. Delphine n'est pas en ligne. Maurice, bonjour. Vous êtes à Kamina. Bonjour, Maurice.
Bonjour, Claude.
Vous êtes à Kamina, au Katanga. On vous écoute.
En tout cas, je suis très désolé quand le conseil du ministre est en train de défendre les histoires qui ne sont pas pratiques. Hein, vous voyez, s'il ne cherche pas, s'il est bien payé, il ne cherche de rien du tout. Hein. S'il était vraiment parmi la population qui souffre, il ne devait pas, il doit être conscient que tout ce qu'ils font là, à la primature, rien ne va. Hein. En même temps, je trouve que le budget 2009 n'a rien foutu. Hein, parce qu'il n'y a jamais aucun changement, le prix galope, les impayements, on a donné aussi des grèves, même pas les pas. Ouais, c'est un budget qui a été profitable, rien qu'aux autorités gouvernementales, ouais, notamment le ministre, le député, les autres. Les chefs de gouvernement imaginent qu'il y a plus de 400 conseils. Ces gens-là, ils le font gratuitement. N'est-ce pas? Ils sont bien payés, plus chèrement payés, au détriment des autres qui sont en train même de faire des travaux pour fournir cet argent au gouvernement.
Voilà,
en tout cas, je trouve que ma suggestion, c'est de chercher les gens qui ont suffisamment de moyens au gouvernement. Alors, sur la tête, ils pensent. Je vais penser aux autres qui n'ont pas de moyens. S'il n'a pas de moyens, je vais chercher d'abord à remplir sa poche et tout. Jusqu'à quand, en tout cas, on en a plein sur le dos.
Merci beaucoup, Maurice, pour votre intervention depuis Kamina et dans le Katanga. Je pense que vous êtes en ligne.
Oui, mais merci beaucoup.
On vous écoute aussi.
Je vais en passant M. Dédé Moulos, parce que je connais.
Allez-y, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, ma contribution à ce niveau, c'est de demander autant au gouvernement national, autant qu'il fait beaucoup d'efforts pour mobiliser des recettes, comme le dit le conseil principal, autant qu'on puisse aussi concrétiser la décentralisation. Et le socle de cette décentralisation, c'est l'autonomie des provinces. La grande question de la gestion des frais, en fait, des moyens des investissements des provinces, des budgets d'investissement des provinces, doit être définitivement résolu parce que si le gouvernement central fournit des efforts au niveau central de développer le pays, de développer les infrastructures, il ne peut compter que sur le soutien des provinces. Et ce soutien des provinces ne peut être possible que lorsque les provinces ont effectivement les moyens de leur politique, les moyens de leur budget. Parce que le gouvernement central, bien sûr, envoie des moyens, comme l'a dit le conseiller principal, mais quels sont ces moyens? Nous avons les documents qui sont régulièrement transmis par le ministère du budget où on parle de frais de fonctionnement et disons que les moyens en rapport avec les investissements pourraient suivre. Et ces moyens ont toujours, ne sont toujours pas là. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que le budget pour les provinces, pour les envois en province, n'est pas exécuté à 100%. 2007, il y a 3 mois qui n'ont pas été envoyés aux provinces. 2008, il y a 2 mois qui n'ont pas été envoyés aux provinces et nous sommes en train de courir les risques qu'en 2009 déjà, qu'il y ait aussi le même scénario. Donc si, autant que le gouvernement central fournit des efforts de mobilisation des recettes, autant aussi qu'il exécute les dépenses liées au transfert aux provinces, de la part des provinces. C'est ça mon intervention.
Merci Delphin de Kinshasa pour votre intervention. Il y a une question ici, sur quoi le Premier ministre s'est-il basé pour fixer le taux de croissance à environ 5%? Est-ce que les paramètres macroéconomiques sont les mêmes en 2010? Déjà qu'il y a récession. Franck d'Autriche nous écrit, si tous les besoins de base ne sont pas systématiquement épinglés et si toutes les priorités budgétaires se trouvent en dehors de cela, c'est bien normal qu'il n'y ait pas d'impact visible sur le vécu quotidien au niveau de la couche moyenne de la population congolaise. C'est tout le problème que nous avons chez nous. Jeannot de Kananga au Kasai Occidental propose que soient supprimées les assemblées provinciales et qu'on mette en place des bureaux de contrôle dans chaque province, des bureaux qui dépendront de Kinshasa et qu'on retourne à l'ancien système de chefs de division qui soient supprimés. Ces ministères provinciaux qui ne font rien. D'après lui, il y a aussi Moufaouma de Kalemie au Katanga qui dit aussi longtemps que le gouvernement congolais continuera à se comporter comme si l'intérêt de la population n'était en aucun cas la seule raison de son existence. Rien ne changera. Monsieur Dédé Moulo, ça, il y a quand même un problème important qu'a soulevé un auditeur. Je crois que ça a été aussi soulevé dans la motion de défiance de l'honorable Clément Kankou. Il semble qu'il y a pléthore au niveau des conseillers du Premier ministre et ça consomme énormément d'argent. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui fixer les Congolais? Est-ce que vous avez réellement, le Premier ministre a réellement 400 conseillers?
Bon, encore une fois, une désinformation. Le Premier ministre, son cabinet n'est jamais composé de 400 conseillers.
Il est composé de combien?
Il est composé d'un directeur de cabinet, de 4 directeurs de cabinet adjoints, de 19 conseillers principaux, et de plus ou moins 36 conseillers contre cela. La
ça
différence, s'il vous plaît, la oui. Différence est constituée, c'est-à-dire qu'on met, le chef du gouvernement a voulu rester transparent.
Mm-hmm.
Contrairement aux habitudes consacrées en matière de constitution de cabinet de premier ministre, chef du gouvernement, qui consistait à nommer les gens dans un décret, un nombre assez limité, pour donner l'impression qu'on n'a pas beaucoup de conseillers, qu'on n'a pas beaucoup de collaborateurs, et que le reste n'était pas repris dans le décret du Premier ministre. Lui, pour au moins, a innové pour que tous ceux qui travaillent, qu'ils soient domestiques à la maison, qu'ils soient personnels d'appoint pour ce qui est des services de sécurité, les policiers qui l'entourent, qui assurent sa sécurité, tout le monde qui fait partie de son cabinet, qu'il puisse apparaître dans son décret. Et cela a fait croire aux gens que le Premier ministre, avec 400 personnes, avait engagé plus de gens que ses prédécesseurs. La comparaison a été vite faite, d'ailleurs, avec certaines personnes citées dans cette comparaison de la triste époque que nous connaissons. Il n'en est pas question. Dans les 400 personnes... Oui, 400 conseillers, il n'y a pas 400 conseillers, il y a plutôt 400 membres du cabinet du Premier ministre qui comprend le personnel politique, le personnel administratif et également le personnel d'appoint.
Il semble qu'il y en a qui n'ont même pas des chaises où s'asseoir dans le cabinet.
Le problème des locaux est un problème général à toute l'administration de notre pays. Ce n'est pas seulement un problème du cabinet, mais à ce que je sache, au niveau du cabinet du Premier ministre, ceux qui sont nommés, chacun a un poste bien précis de travail. Il n'y a pas de gens qui manquent de locaux à la primature.
Mais c'est quand même un gros budget, hein, 400 personnes.
400 personnes lorsque vous regardez les budgets. Lorsque vous parlez
avec la crise, hein, avec
s'il
la
vous plaît,
crise.
S'il vous plaît, lorsque vous regardez. Mais ils sont payés au même taux que les fonctionnaires. Ils ne sont pas payés à un taux différent. Un conseiller du Premier ministre n'a pas plus qu'un directeur de l'administration publique.
Voilà.
Donc, ce sont des éléments importants. Le reste, c'est la désinformation. On essaie d'enfler, on essaie de faire peur à la population. On essaie de ne pas bien informer. Ceux qui disent à la population, là, je réponds de manière assez globale.
Oui.
Ceux qui font croire à la population que le gouvernement devrait faire un miracle pour résoudre l'ensemble des problèmes. Et même faire croire aux gens, j'entends ça en filigrane. J'ai dit en filigrane ce qui est dit, que le gouvernement irait même jusqu'à distribuer l'argent pour mieux assurer le bien-être de la population. Il n'a jamais été question, ce n'a jamais été un engagement du gouvernement, ni de la majorité au pouvoir, non, s'il vous plaît. Mais le problème, c'était de résoudre un certain nombre de problèmes, mais de le faire de manière progressive, ordonner, et c'est ce qui est dans, être dans être ce qui est en
voilà, être fait. Voilà. Jean-Paul, en quelques secondes, parce qu'il nous reste que deux minutes avant la fin de l'émission, vous intervenez depuis Dar es Salaam en Tanzanie. Bonjour.
Bonjour.
Rapidement, 30 secondes, quelle est votre contribution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que qu'il y ait changement, quoi, qu'on ait qu'on sente l'impact de ce budget?
De votre côté, ce que je dois dire, c'est que je suis éclairé par l'intervention du conseiller principal, n'est-ce pas? Parce que, on a quand même l'impression que, il parle pour les terrains d'une institution contre une institution. Nous, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur du pays, on a une autre idée de ce qui se passe dans notre pays, vous savez? Il y a une part très négative de ce qui se passe. En fait, imaginez par exemple que, si vous êtes à Dar es Salaam, par exemple, c'est des routes en construction permanente. Vous voyez que notre pays en construction. Ce n'est pas le cas chez nous. Si on veut faire peut-être un petit kilomètre, je voudrais passer, on doit aller dans ce jeu.
Merci beaucoup, Jean-Paul. Malheureusement, vous intervenez à la fin de cette émission. Merci pour votre intervention depuis Dar es Salaam, monsieur le conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population sente quand même un certain impact de ce budget 2010? En 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on est à la fin de l'émission.
Ce qu'il faut faire, c'est rester dans l'engagement du chef du gouvernement, du Premier ministre, qui a dit assez clairement à la représentation nationale dernièrement que son programme va s'articuler sur deux axes principaux. Le premier, c'est le développement assez rapide et la recherche de moyens pour le développement des infrastructures, tant routières, aéroportuaires, portuaires, côtes. Deux, c'est de s'engager dans les réformes. Les réformes de l'administration, les réformes dans la gestion de la monnaie et les réformes dans le système financier de l'ensemble de la République.
Merci beaucoup.
C'est de cette manière que nous répondons progressivement aux préoccupations, aux besoins de la population.
Merci, M. Boudé Moulossa, Kachamankoï, d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes conseiller principal du Premier ministre chargé des banques et monnaies. On se retrouve demain mardi, 20 octobre, pour parler du rapport fait par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extraordinaires. Selon ce rapport, la MONUC et les FARDC ont failli à la protection des civils lors de l'opération Kimia 2. Question, selon vous, quel mécanisme de protection des civils mettre en place et par la MONUC et par les FARDC pour mieux sécuriser la population lors de l'opération Kimia 2? Vous connaissez le contact. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à présenter cette émission. Au revoir.